Bonjour, après nos deux semaines consacrées à une rétrospective de 2015, on retrouve le cours normal de cette émission hebdomadaire.
Une semaine d'actualité. Pierre-Édouard Deldic.
Je ne vois en ces lieux que ceux qui n'y sont pas. Peut-être connaissez-vous ce vers de Lamartine. Il illustre en quelque sorte l'actualité en France un an après les attentats de janvier à Paris, avec pour commencer ce magazine un douloureux rappel des faits. 7-9 janvier 2015, on doit y revenir. Guillaume Deltaille.
C'est en pleine conférence de rédaction que Saïd et Chérif Kouachi font irruption dans les locaux de Charlie Hebdo, un journal visé pour avoir publié des caricatures du prophète Mahomet, ce qui valait à son patron Charb d'être sur une liste de personnes recherchées par Al-Qaïda. Munis d'armes automatiques, les deux frères tuent 11 personnes, puis sortent dans la rue et revendiquent alors leur geste. Dans leur fuite, ils abattront également un policier. La traque est lancée. Il faudra près de 2 jours pour les retrouver. En attendant, c'est leur complice qui entre en action. Hamidi Koulibaly, qui tue une policière municipale le lendemain au sud de Paris, avant, lui aussi, de prendre la fuite. C'est vendredi qui sera le jour des confrontations finales. Adam Martin Angouel, pour les frères Kouachi, ils s'enferment dans une imprimerie dès le matin à Paris pour Hamidi Koulibaly, qui attaque à la mi-journée une épicerie juive et tue encore 4 personnes. Pendant plusieurs heures, assaillants et unités d'élite des forces de l'ordre se font face et c'est finalement vers 17h que les armes se font entendre. Les 3 terroristes sont tués.
Une semaine d'actualité, comme d'habitude, grâce à nos correspondants et à nos envoyés spéciaux, nous allons faire un tour du monde qui passera par l'Arabie Saoudite, l'Iran, la Corée du Nord notamment. Pierre Conessa est notre invité, il est spécialiste de géopolitique, spécialiste des questions militaires. Il vient d'écrire un guide du petit djihadiste à l'usage des adolescents, des parents, des enseignants et des gouvernants, un livre publié aux éditions Fayard. Bonjour Pierre Conessa.
Bonjour.
On retrouve votre humour pour traiter les sujets importants. On avait parlé ensemble dans Idée, dans cette même émission, de deux de vos livres précédents, La fabrication de l'ennemi ou Comment tuer avec sa conscience pour soi en 2011, et surtout Ne rien décider, manuel de survie en milieu politique avec exercice pratique corrigé, un livre qui avait été publié, lui, toujours chez Lafon en 2014. Et voici ce guide du petit djihadiste qui vous permet avec humour au second degré de traiter des questions évidemment très graves.
Oui, humour, parce que j'ai pensé que c'était la forme, disons, la plus noble de rendre hommage aux gens de Charlie, qui sont des gens de ma génération, c'est-à-dire effectivement de rire de tout, même avec tristesse, mais enfin d'en rire.
Ouais. Et vous ne craignez pas les conséquences d'un tel livre ?
Non, j'ai pris mes précautions théologiques. Ah oui. Je dis bien dans l'introduction que je ne critique pas le prophète dans ce document, que je trouve d'ailleurs un personnage assez étonnant, enfin c'est un personnage assez remarquable de l'histoire universelle. Donc si je reçois des menaces de mort, c'est que quelqu'un se prend pour le prophète. Et quand même, être imprégné d'une telle vanité, même pour un musulman pratiquant, est quand même quelque chose qui lui fermerait les portes du paradis, j'en suis absolument certain.
Alors vous adressez à un jeune homme ou à une jeune fille, pourquoi pas, qui voudrait partir en Syrie ou en Irak.
Oui, j'ai choisi de m'adresser directement à une espèce d'interlocuteur supposé, pour essayer de comprendre les modèles, les motivations de ces départs en Syrie, qui encore une fois sont extrêmement importants en quantité. Hein. Je sais pas, par rapport à la population française, évidemment, c'est infime, mais c'est important en termes d'indicateurs sociaux, culturels, civilisationnels, etc. Et donc j'ai essayé dans ce style d'essayer de comprendre la totalité des motivations qui peuvent justifier ce départ en Syrie. Et si je l'adresse ce bouquin aux gouvernants, c'est parce que je pense qu'ils ont une grande part de responsabilité dans ces départs brutaux, dans ces conversions soudaines, si vous voulez.
Voilà. On en reparlera dans un instant. Une semaine d'actualité. Écoutez aussi sur le site de la radio RFI.fr. Et direction maintenant tout de suite l'Arabie Saoudite. Pierre Conessa, qui a rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran dimanche après l'incendie de son ambassade à Téhéran, lui-même consécutif à des exécutions, notamment d'un dignitaire chiite, Nim al-Nimer, Riyad Clarence Rodriguez, lundi.
L'Arabie Saoudite, qui a engagé pour la seconde fois en 30 ans un divorce diplomatique avec l'Iran, est bien décidée à marquer le coup. Suspension et interdiction de tous les vols à destination ou en provenance de Téhéran. Décision valable aussi pour les échanges commerciaux avec la République islamique. Sur ordre du ministre saoudien des Affaires étrangères, Adel Al-Joubert, les ressortissants saoudiens ont interdiction de se rendre en Iran. Quant aux pèlerins iraniens, ils peuvent se rendre dans les villes saintes de l'islam, la Mecque, Médine, aucune interdiction. dénonçant des années de politique iranienne agressive envers le royaume saoudien. Le ministre des Affaires étrangères est revenu sur la personnalité du cher Nimr al-Nimr, le qualifiant de terroriste, et de rajouter que le dignitaire chiite était accusé d'agitation et d'organisation de cellules auxquelles il fournissait des armes et de l'argent. Comme pour se justifier, Adel El-Joubert a rappelé que 43 membres d'Al-Qaïda impliqués dans des attentats entre 2003 et 2006 avaient été exécutés le même jour que le cher Nimr.
Alors sur ce même sujet, je vous conseille d'écouter le magazine Orient Hebdo d'Éric Bataillon à 13h40, 19h40 aujourd'hui, pour en savoir plus sur la situation en Arabie Saoudite et sur le sens que l'on peut donner à ces exécutions, si sens il y a. Pierre Connaissant, en tout cas dans votre livre, le guide du petit djihadiste, l'Arabie Saoudite est au cœur de vos lignes, de vos chapitres. Vous écrivez par exemple, l'Arabie Saoudite est le Disneyland du salafisme, le Canada Dry de l'État islamique.
Oui, tout à fait. Il y a eu des articles beaucoup plus scientifiques sur la question. Il y a notamment un article publié par le New York Times, dont j'ai oublié l'auteur, qui explique que l'Arabie Saoudite est simplement un Daesh qui a réussi. Effectivement, c'est vrai que quand on compare les pratiques sociales dans ce pays et celles qu'applique la Daesh, on se demande pourquoi on se bat contre Daesh, probablement parce qu'il décapite, il coupe les mains des voleurs, il interdit les autres religions et il opprime les femmes, pour défendre l'Arabie Saoudite qui décapite et crucifie en plus, interdit les autres religions, coupe les mains des voleurs et opprime les femmes. Donc il y a effectivement une similitude entre les deux, mais n'oublions pas quand même que l'Arabie Saoudite est un partenaire, un bon client et même, paraît-il, un allié.
Oui, c'est ce que vous dites. Entre le régime saoudien et l'État islamique, il y a une différence. Le premier est un allié, est un excellent client, tandis que le second est un ennemi.
Oui, et puis si vous voulez, ça pose quelques problèmes, notamment de droit pénal. Si un jeune part en Syrie parce qu'il a envie de décapiter quelqu'un, il est effectivement, à son retour, il est immédiatement mis en prison, et on ouvre une instruction judiciaire, etc. Mais s'il répond à l'appel à candidature qu'a lancé l'Arabie Saoudite pour recruter 8 bourreaux, si donc il va décapiter légalement en Arabie Saoudite, je pense pas qu'au regard du droit français, on pourrait le lui reprocher. Donc je dis, c'est un conseil de prudence que j'adresse à tous les jeunes qui veulent partir, selon la pratique de cruauté que vous choisissez, faites attention, il y a des endroits où vous pouvez pratiquement exercer la même cruauté, mais légalement. Donc si vous aimez les armes, par exemple, partez aux États-Unis. N'allez pas en Syrie, vous avez exactement le même droit de tirer sur n'importe qui, dans n'importe quelle condition.
D'ailleurs, à ce sujet, le président Obama, cette semaine, a essayé une nouvelle fois de proposer par décret des mesures qui permettraient de restreindre l'utilisation des armes à feu. Le succès n'est pas garanti du tout.
Oui, mais ce qui est fascinant dans le massacre de San Bernardino, c'est que ça devait être le 360e massacre collectif aux États-Unis depuis le début de l'année. Mais celui-là, ayant été fait par les islamistes, il était grave. C'est-à-dire qu'il y a eu un débat qui s'est engagé, notamment avec la proposition de Donald Trump d'interdire toute l'entrée aux musulmans. Par contre, les 359 autres massacres, si vous voulez, sont des massacres intérieurs et donc tout à fait légaux. Donc voilà, il faut faire attention, pas partir n'importe où, dans n'importe quelle condition, il y a des opportunités légales.
Et sur ces exécutions en Arabie Saoudite, vous avez un commentaire, Pierre Connaissat, sur ces tensions, enfin, vraiment de vraies tensions, des ruptures de relations diplomatiques entre l'Arabie Saoudite et l'Iran?
Non, j'ai une petite remarque. D'abord, c'est que c'est pas le record du monde de l'Arabie Saoudite. Le record, c'est les 64 décapités au moment de l'invasion de la Grande Mosquée en 79. Enfin, à l'époque, il y avait moins de moyens de communication, donc ils avaient pris simplement 4 villes et retransmission en direct à la télévision sans procès. Bon, là, maintenant, ça a été effectivement pareil, décapitation publique, mais il y a que 45 personnes. Il y a 4 chiites, en total, donc on peut pas dire que ce soit exclusivement Al-Nimr d'un côté puis les sunnites de l'autre. Mais il reste qu'effectivement, exécuter un dignitaire religieux qui en plus avait d'ailleurs des divergences avec le régime de Téhéran, pour expliquer que c'est de la sédition et du terrorisme. Ça donne une définition du terrorisme dont on pourrait d'ailleurs s'inspirer, parce qu'effectivement, à ce tarif-là, on pourrait décapiter la moitié de la population saoudienne, par exemple.
Sept jours dans le monde.
Alors Pierre, connaît ça, un autre grand titre de l'actualité internationale maintenant, c'est l'essai nucléaire nord-coréen, explosion d'une bombe à hydrogène selon le régime. En tout cas, le Conseil de sécurité de l'ONU n'a pas tardé cette fois à réagir. New York mercredi, Marie Bourreau.
Le Conseil de sécurité a mis moins de 2 heures à condamner fermement cet essai, mais c'est surtout la réaction de la Chine qui était scrutée, elle qui a toujours défendu son allié nord-coréen. Le Conseil a affirmé travailler unanimement à une nouvelle résolution qu'il voudrait adopter très vite. Selon l'ambassadeur britannique à l'ONU, le Conseil de sécurité pourrait décider d'alourdir le régime de sanctions contre Pyongyang, par exemple en allongeant la liste des individus et entités liés au programme nucléaire nord-coréen. Une demande répétée des Japonais à portée de missiles est bien décidée à accepter accentué la pression depuis qu'il siège au Conseil de sécurité comme membre non permanent.
La dernière fois que le Conseil de sécurité a adopté une résolution, c'était en 2013. Il y exprimait sa détermination à prendre des mesures supplémentaires et significatives dans le cadre d'un nouveau tir de missile nord-coréen ou d'un test nucléaire. Si des mesures supplémentaires ne sont pas prises, c'est l'autorité et la crédibilité du Conseil de sécurité qui seront remises en question.
Cette précipitation à répondre au tir nucléaire tranche en tous les cas avec les habituelles négociations qui entourent la question nord-coréenne et pourrait signifier un glissement de la Chine qui commence à trouver l'allié nord-coréen un peu trop encombrant. Ira-t-elle jusqu'à voter de nouvelles sanctions ? C'est une ligne rouge que Pékin n'a encore jamais osé franchir.
Suite d'une semaine d'actualité entre l'Inde et le Pakistan, après une attaque terroriste perpétrée samedi, dimanche et lundi dernier par un commando d'un groupe islamiste basé au Pakistan contre une base militaire indienne située dans l'état du Punjab. Mais les deux états n'ont pas voulu envenimer la situation. New Delhi, Antoine Guinard.
Des mesures rapides et décisives contre les terroristes. C'est ce qu'a promis Nawaz Sharif à Narendra Modi ce mardi. Le premier ministre pakistanais a téléphoné à M. Modi pour lui assurer de son soutien dans l'enquête sur l'attaque meurtrière de Pathankot qui aura duré plus de 3 jours. Selon un communiqué de presse officiel, le premier ministre indien aurait exigé de son homologue pakistanais une réaction ferme et immédiate. Cette conversation presque informelle entre les deux leaders prouvant elle-même qu'ils souhaitent poursuivre, malgré ce nouvel attentat terroriste, leur politique de rapprochement commencée il y a plus d'un an. New Delhi s'était d'ailleurs retenu d'accuser explicitement Islamabad ces derniers jours, alors même que l'origine pakistanaise du complot terroriste se précisait. L'attaque, lancée tôt samedi matin contre cette base aérienne située à une 30 kilomètres de la frontière pakistanaise, a depuis été revendiquée par le Conseil unifié du djihad. Cette coalition de groupes islamistes armés basés au Cachemire, région disputée par l'Inde et le Pakistan depuis 1947, est depuis longtemps soupçonnée d'être soutenue par les puissants services secrets pakistanais.
Avant de retrouver Pierre Conessa, revenons en Europe, en Allemagne, après de graves incidents à Cologne durant le week-end de la Saint-Sylvestre, incidents qui ont choqué le pays. Explication de Pascal Thibault, mercredi à Berlin.
Plus de 150 plaintes ont été enregistrées ces derniers jours après les incidents de Cologne durant la nuit de la Saint-Sylvestre. Les trois quarts d'entre elles concernent des agressions sexuelles. Deux femmes affirment avoir été violées. Plusieurs suspects ont été identifiés, mais la confusion qui régnait le 31 décembre aux abords de la gare de Cologne ne facilite pas l'enquête. L'émotion reste importante en Allemagne. L'absence de faits avérés, les spéculations des uns, l'exploitation des autres, faisant un amalgame entre les auteurs des faits, décrits comme étant d'origine nord-africaine ou arabe, contribuent à attiser des débats peu serein. La police de Cologne est critiquée pour ne pas avoir réagi assez vite. Les médias le sont également car ils auraient temporisé et ou évité d'évoquer l'origine étrangère des agresseurs pour éviter une stigmatisation des migrants. Et ce, à l'heure où l'Allemagne vient d'accueillir en 2015 plus d'un million de réfugiés. Les responsables politiques demandent que tout amalgame trop rapide soit évité, mais les mouvements populistes se frottent les mains et ont déjà commencé à exploiter ces agressions. Dans ces débats, les victimes sont un peu vite oubliées.
Une semaine d'actualité.
Et nous sommes toujours en compagnie de Pierre Conessa, auteur d'un guide du petit djihadiste à l'usage des adolescents, des parents, des enseignants et des gouvernants, livre publié chez Fayard. Alors Pierre Conessa, dans la rubrique « Où aller ?» dans ce guide imaginaire, plein d'humour, je le répète, second degré, vous avez un chapitre consacré aux destinations que vous conseillez dans ce guide pour aller faire le djihad. Et dans la rubrique « Pakistan », vous écrivez « Le Pakistan, pays des purs et le Walmart du djihadisme ». Le supermarché, en fait. Hein.
Oui, c'est ça. J'ai pris l'exemple de ce grand supermarché américain parce que c'est vrai que le Pakistan offre toutes les possibilités. C'est un pays qui, depuis sa création, pratiquement, est déchiré par des querelles souvent violentes. Et c'est pratiquement le deuxième ou le troisième pays pour le nombre d'attentats terroristes l'année dernière. Bon. Donc, ces attentats terroristes sont des attentats qui concernent les minorités religieuses. C'est-à-dire, ce sont des attentats intra-religieux ou extra-religieux, c'est-à-dire soit des communautés chrétiennes vivant au Pakistan, soit des attentats faits par les sunnites sur les chiites ou les chiites sur les sunnites. Donc, c'est dans ce sens-là où vous trouvez tout au Pakistan. C'est-à-dire, vous pouvez effectivement trouver des madrassas wahhabites créés à l'époque de la guerre en Afghanistan. Vous pouvez trouver des madrassas déobandistes qui sont à peu près de la même coloration religieuse. Vous pouvez aussi effectivement trouver des groupes armés un peu de toute nature, soit pour aller vous battre au Cachemire, soit éventuellement pour aller, comme ça s'est passé il y a quelques années, aller faire une grande virée de destruction, par exemple d'un grand hôtel. Rappelez-vous l'attaque à Bombay contre le grand hôtel Taj Mahal. C'était une espèce de préfiguration de ce qu'on a connu nous en novembre, c'est-à-dire des terroristes qui arrivent par des moyens, en l'occurrence là ils étaient arrivés par la mer, et qui ont effectivement pris en otage toute une population dans un grand hôtel qui est en front de mer, ou dans des grands hôtels qui sont en front de mer, et qui ont massacré, si vous voulez, sans aucune retenue. Et donc ça, c'est le scénario le plus terrible, parce que c'est celui contre lequel les forces de sécurité ne peuvent strictement rien faire. Donc il faut regarder un peu ce qui se passe partout, parce qu'il y a des phénomènes de porosité, si vous voulez, entre les pratiques terroristes des uns et des autres. Et donc je pense que le Pakistan est une espèce de laboratoire intéressant à observer.
Alors à propos de jeunes qui pourraient être intéressés par le djihad, hélas, il faut préciser que dans l'actualité, par exemple, de ces dernières heures, notamment, qu'un djihadiste syrien de 20 ans a exécuté en public sa mère, qui avait tenté de le convaincre d'abandonner le groupe État islamique. Quand on voit ce genre d'informations, Pierre Connaissant, on se dit que le dialogue est difficile avec ce genre d'individu.
Oui, c'est tout à fait. Mais on a connu quelques grandes utopies mortifères comme ça dans notre passé, malheureusement. Je cite souvent l'exemple des Khmers Rouges, oui, qui, dans le domaine du massacre, ont beaucoup innové. Ouais. Rappelez-vous qu'à l'époque des Khmers Rouges, un individu qui avait des lunettes était considéré comme un intellectuel, par exemple, ce qui était une bonne manière de différencier les gens. Là, ici, on a effectivement l'exécution d'une mère par son fils. C'est une des démonstrations les plus effroyables, parce que dans l'islam, si vous voulez, il y a une phrase du Coran qui dit « Le bonheur est au pied des mères ». Celui-là, visiblement, n'avait pas lu le Coran. Et d'ailleurs, c'est une caractéristique.
Oui, hein, que vous soulignez dans ce guide, d'ailleurs.
Oui, absolument.
La méconnaissance de la religion. Hein.
La méconnaissance de la religion, c'est-à-dire que le salafisme est une espèce d'islam en kit. C'est ça qui est très étonnant. C'est-à-dire, ça ne vous donne que des règles de comportement. Il n'y a aucune inspiration, si vous voulez, théologique, de réflexion philosophique sur le monde, sur les grandes valeurs, le bien, le mal, etc. Il y a des règles de comportement. Et ces règles de comportement, c'est d'ailleurs un des ouvrages connus du grand mufti d'Arabie Saoudite, qui s'appelle le licite et l'illicite. C'est-à-dire que toute la règle, c'est ce que vous avez le droit et vous n'avez pas le droit de faire. Et ça, c'est une caractéristique des systèmes totalitaires. C'est la manière dont on s'introduit, on régimente, on réglemente tout type de comportement. Et effectivement, les salafistes vont très loin dans ce genre de choses, allant jusqu'à la preuve ultime, qui est d'exiger qu'on tue quelqu'un pour montrer sa fidélité.
Ouais, alors Pierre Connaissant, je n'oublie pas que vous êtes un spécialiste des questions d'armement aussi. L'essai nucléaire coréen suscite chez vous un commentaire ?
Écoutez, moi, le commentaire qui me paraît le plus grave, c'était après l'affaire du Kosovo. Il y a un chef d'état-major qui a dit « On ne se bat pas contre les États-Unis sans armes nucléaires ». C'est-à-dire que la preuve de la supériorité conventionnelle des Occidentaux était telle, après le Kosovo, que un grand chef d'état-major a dit « On ne se bat pas contre les Occidentaux, en quelque sorte, sans armes nucléaires ». Et vous savez qui avait dit ça ? C'était pas Ahmadinejad, c'était pas Kim Il-sung, c'était le chef d'état-major de l'armée indienne, c'est-à-dire de la plus grande démocratie du monde. Et moi, mon souci, c'est qu'il faut faire très attention, parce que les Occidentaux ont été pris après 91 d'une espèce d'hubris guerrière, d'une espèce de folie guerrière, que malheureusement les Européens ont en partie suivi, et la France est en train de s'y engager avec encore plus d'acharnement que ne l'avaient fait les Britanniques en d'autres temps. Et ça, c'est très grave. Parce qu'encore une fois, dans des guerres asymétriques, vous avez deux types de répliques qui sont stratégiquement possibles, c'est soit le nucléaire, option qu'avaient choisi les Iraniens ou que choisissent aujourd'hui les Nord-Coréens, soit l'attentat terroriste. C'est la technique qu'a choisi Daesh, c'est-à-dire rétablir l'équilibre de la disparité militaire par des formes de comportements violents, si vous voulez, tout à fait différents. Quoi.
Sauf que là, la Chine s'est désolidarisée de la Corée du Nord. On sent qu'il y a des tensions entre les deux, et pourtant, c'est la Chine qui soutient la Corée du Nord.
Bien sûr, mais la Chine, si vous voulez, comme la Russie d'ailleurs, avait depuis un certain nombre d'années, justement, marqué des positions, notamment au Conseil de sécurité, pour essayer de faire comprendre que cette espèce de droit de police que se sont donné les Occidentaux après 91 ne pouvait pas indéfiniment comme ça se faire. Rappelez-vous le parallélisme entre Kosovo et Crimée que font les Russes, c'est-à-dire vous avez fait au Kosovo, en violation des règles du droit international, un soutien à une insurrection qui aboutit à une sécession, et quand nous le faisons en Crimée, vous nous expliquez, alors j'avais une phrase succulente de Kerry, disant au XXIe siècle, c'est inadmissible qu'un État ne respecte pas la souveraineté territoriale de notre venant du secrétaire d'État américain après l'invasion de l'Irak, c'est quand même cocasse, avouez. Donc cette capacité à s'auto-blanchir, si vous voulez, sur les Occidentaux est quelque chose, un phénomène dont l'opinion publique doit quand même prendre conscience, parce que, encore une fois, on a des décideurs qui sont tellement imprégnés de l'idée que la Terre est plate et qu'ils en sont le centre, que il y a parfois des comportements inquiétants.
Pierre Connaissant, on apprécie toujours votre langage brut et net. On va marquer une pause, écouter quelques nouvelles du monde, et on se retrouve naturellement dans 3 bonnes minutes. À tout de suite. Merci pour toutes ces informations. On se retrouve pour revivre les grands moments de la semaine qui s'achèvent avec les reportages de la rédaction et notre invité.
Une semaine d'actualité.
Notre invité, Pierre Conessa, il est spécialiste des questions de défense et de géopolitique. Il vient d'écrire un guide du petit djihadiste à l'usage des adolescents, des parents, des enseignants et des gouvernants. Guide publié chez Fayard. Dans un instant, nous partirons pour l'Afrique, évidemment. Rendez-vous avec vos messages. Mais il nous faut nous arrêter en France, d'abord, avec les cérémonies d'hommage à la mémoire des victimes des attentats de janvier dernier à Paris. Dévoilement de plaques sur les lieux des tueries. Cérémonie demain dimanche, place de la République. Le recueillement ne doit pas nous empêcher de se poser des questions, comme le fait le Canard Enchaîné cette semaine. Question sur les failles dans la surveillance de Charlie Hebdo. Et l'épouse du policier chargé de la protection du dessinateur Charb a d'ailleurs porté plainte. Explication de Carlotta Morteo.
Il était un policier d'élite, Franck Brinsolaro, le garde du corps de Charb, son épaule, comme on dit dans le jargon policier, avait déjà échappé à la mort plusieurs fois. Chargé de protéger des ambassadeurs, d'exfiltrer des otages, Franck Brinsolaro était passé par le Liban, l'Afghanistan, le Cambodge. Un homme de terrain, payé 2 200 € pour assurer la garde du dessinateur, devenu l'une des principales cibles d'Al-Qaïda. Franck Brinsolaro aurait à plusieurs reprises fait part à sa femme Ingrid du manque de sécurité autour du journal Charlie Hebdo. Le fait qu'il ne ferait pas le poids contre une attaque djihadiste et l'arsenal de guerre dont usent les terroristes, ses doutes quant à l'allègement du dispositif de surveillance décidé en 2014. Et puis, cette information, un homme cherchant à localiser les bureaux du journal se serait entretenu avec le voisinage quelques mois avant l'attaque. Cette information aurait été retransmise au service de renseignement dans un rapport. A-t-il été lu ? Qu'en a-t-il été conclu ? La femme de Franck Brinsolaro veut aujourd'hui s'assurer que s'il y a eu des dysfonctionnements, leur responsables devront en rendre compte.
Sept jours en France.
Et autre chose, vraiment autre chose, maintenant Pierre connaît ça, cette semaine en France a été marquée par la disparition d'artistes très populaires. L'acteur Michel Galabru, grand acteur qui n'a jamais été reconnu à sa vraie valeur, mais qui demeurera dans les mémoires comme un acteur comique, écoutez-le parler du rire.
Vous savez, on peut se servir de mots pour faire rire, pour... Et ça, ça se décide au dernier moment, et chaque soir, c'est à l'instinct, quoi. Quelquefois on le loupe, quelquefois on dit « Ah, ouh, là je l'ai !» Là je l'ai, vous voyez ? Comme le pêcheur qui ferre le poisson. Là, c'est juste. Et je suis récompensé tout de suite, parce que dans la salle, j'ai ma réponse... Soit un rire franc sonore, soit un frisly, quand c'est pas du comics, quand c'est l'humour qui passe. Je suis tout de suite récompensé, mais c'est chaque soir une bataille qui n'est pas évidente.
Autre disparition, celle de Michel Delpech, chanteur populaire par excellence, Sarah Tisser.
C'était bien chez Lorette.
Chez Lorette, c'est le titre qui révèle Michel Delpech en 1965. Repéré lors du spectacle de son lycée de banlieue parisienne, il n'a alors même pas 20 ans. Et c'est le premier d'une longue liste de tubes.
Avec toi, je ferai n'importe quoi.
Pour un flirt, White is White, Le Chasseur, Le Loir-et-Cher, Quand j'étais chanteur, auteur, compositeur et interprète, Michel Delpech fait avec ses chansons la chronique d'une époque, les années 70, le modèle familial qui vole en éclats par exemple avec Les Divorcés.
On pourra dans les premiers temps donner la gosse à tes parents.
Lui-même se remet difficilement de son divorce dans les années 70 et sombre dans la dépression. Il faudra attendre des années pour qu'il renoue avec la scène, plus modestement, mais avec un public fidèle. C'est sa seconde femme qui l'aide à s'en sortir, la religion aussi, comme il l'expliquait dans un livre récent, J'ai osé Dieu. Atteint d'un cancer de la gorge depuis 2013, Michel Delpech avait publié un autre ouvrage, Vivre, récit de son nouveau combat contre la maladie.
Semaine d'actualité en compagnie de Pierre Conessa. Vous aimiez Michel Delpech, Pierre?
Oui, j'aimais beaucoup. Je trouve que c'est un excellent compositeur, interprète. Je suis en train d'écouter White is White. Je suis frappé d'une...
Toute une époque.
Hein. Oui, justement, c'était l'époque, la musique, faites l'amour, pas la guerre. Aujourd'hui, c'est pas de musique, faites la guerre, pas l'amour. C'est extraordinaire, ce renversement de valeurs. Ce fait que la libération de la femme s'est renversée avec des départs de femmes en Syrie pour aller vivre un système d'oppression masculine comme on en a rarement connu. Et le tout, volontairement, c'est cette espèce d'inversion de valeurs que j'essaye de traduire, évidemment, sur un temps un peu distancié dans le...
C'est
ce
livre. Dire.
Oui, c'est très distancié, mais en même temps, c'est pathétique, si vous voulez. Donc, comment parler de choses aussi pathétiques, si ce n'est en ayant un minimum de distance cynique.
Alors on va rester dans ce même ton du terrorisme, du djihadisme, maintenant, puisque la semaine a été marquée par cet homme porteur d'une ceinture d'explosifs factices et d'une arme blanche qui a été abattu jeudi à Paris alors qu'il tentait de pénétrer dans un commissariat dans le quartier populaire de la Goutte d'Or, donc au cœur de Paris, par l'hommage de François Hollande aux policiers à la préfecture de police de Paris, et toute une semaine d'hommage qui se terminera demain, place de la République.
Oui, c'est-à-dire que janvier 2015 a ouvert une nouvelle époque dans la République. C'est-à-dire que le choc de l'assassinat des dessinateurs de Charlie, effectivement, a provoqué ce sentiment d'unité nationale, ces manifestations, etc. Puis tout l'arsenal répressif, en tout cas d'aménagement, si vous voulez, de légal de la sécurité dans les comportements de police, etc. Mais il reste que, moi, quand j'écrivais l'année dernière un rapport sur la contre-radicalisation, j'interpellais les politiques sur la politique elle-même, c'est-à-dire tout ce qu'il faut faire à côté, si vous voulez, pour que une partie de la communauté française ne se sente pas exclue, qu'elle se sente pas stigmatisée, qu'on s'appuie sur ses élites pour aider à lutter contre le salafisme qui la ronge. Et encore une fois, ce sont ces gens-là, c'est-à-dire les élites de la communauté française, qui sont les premiers ciblés par ces salafistes, qui les considèrent comme de mauvais musulmans. Et en particulier, j'essaye de faire comprendre dans le livre que tous ces jeunes qui vont aller en Syrie vont d'abord commencer par massacrer des musulmans. Aujourd'hui, Daesh et aujourd'hui les attentats terroristes tuent 90% de musulmans et 10% de non-musulmans. Donc quand nos décideurs décident que nous sommes en guerre, ils se trompent sur deux choses. D'abord, c'est nous qui avons déclaré la guerre à Daesh. Ça fait plus d'un an maintenant qu'on bombarde. Et donc, ça suscite ici des attentats terroristes. On a connu l'époque de l'Irak avec les attentats à Madrid et à Londres. On sait que de toute façon, l'attentat, le point de faiblesse, c'est toujours le territoire national. Malgré ça, on explique qu'on est en guerre. Et puis, évidemment, la deuxième chose, c'est que il faut aussi une politique d'accompagnement. Cette politique d'accompagnement, c'est nommer la cible. Alors, ça commence à apparaître. C'est-à-dire qu'on parle enfin du salafisme, si vous voulez, alors qu'avant, on parlait de termes génériques, genre l'islam rationnel, les musulmans fanatiques, tout ce que vous voulez. Mais à chaque fois qu'on utilise des termes génériques comme ça, c'est l'ensemble de la communauté qui se sent stigmatisée. Et ça, c'est mauvais. Maintenant, on est sur le salafisme, ça commence à devenir plus clair. Alors ensuite, vous faites la distinction entre les salafistes quiétistes et les salafistes djihadistes, mais l'espèce de continuum intellectuel dans la légitimation de la violence entre les quiétistes et les djihadistes, c'est quand même assez fascinant, parce que quand vous entendez des salafistes quiétistes vous expliquer comme l'imam de Brest que ceux qui écoutent de la musique sont des chiens et des porcs, quand vous expliquez ça à des enfants, alors qu'on vient de subir le massacre du Bataclan, je commence à me demander si effectivement la liberté d'expression permet ce genre de choses.
Alors Pierre Conessa, vous y avez fait allusion à l'instant, vous avez écrit un rapport à la demande de la Fondation d'aide aux victimes du terrorisme, un rapport qui s'intitule « Quelle politique de contre-radicalisation en France ?» Et dans ce livre, dans ce guide que j'ai sous les yeux, vous dites qu'il s'adresse aussi à nos décideurs qui se déchargent de toute responsabilité en qualifiant les candidats au départ en Syrie de malades et de psychopathes. C'est un peu court, effectivement.
Oui, effectivement, on a eu plusieurs fois ce genre d'interprétation, c'est-à-dire consistant à dire ce sont des gens égarés qui sont passés sous une influence sectaire, ce qui est d'ailleurs vrai. Mais encore une fois, ça évitait de s'interroger sur les causes profondes qui fait qu'une politique répressive doit aussi s'associer à une politique positive, si vous voulez. Et évidemment, c'est très difficile quand on est un homme politique de penser qu'on a une responsabilité. En général, on estime que...
Vous l'avez écrit d'ailleurs dans un livre dont on avait parlé.
Oui, on estime qu'à ce moment-là, c'est les élections qui doivent trancher le débat. Bon, en fait, ce n'est pas vrai. Il faut aussi que les hommes politiques se rendent compte que ce qu'ils décident a des effets directs, et les paroles qu'ils prononcent ont des effets directs. Donc, il faut qu'ils se rendent compte de leur part de responsabilité dans tout ce qu'on a refusé à la communauté musulmane, qui était des demandes normales, tout le système du double standard en politique extérieure. Pensez à une chose extraordinaire. Aujourd'hui, vous avez effectivement en Israël le même scénario que celui qu'on a vécu dans le commissariat du 19e, tous les jours. Pourquoi ? Parce que ça fait 48 ans que les Palestiniens attendent d'avoir un État. Bon, je prends l'exemple de la bande de Gaza pour montrer que justement la répression militaire n'a jamais empêché le terrorisme palestinien. Je cite l'exemple extraordinaire, 5 kilos de bombes au mètre carré dans la bande de Gaza lors de la dernière frappe israélienne. 5 kilos de bombes, vous vous rendez compte? Ça veut dire que comment peut-on imaginer que des gens dont la maison a été détruite, dont des parents ont été tués, peuvent se accepter cette situation, encore une fois. Et donc, on est dans une situation où, si on ne se rend pas compte... Vous savez, il y avait sur un site salafiste, il y avait une phrase que j'ai trouvée pathétique. Il disait « 1000 morts à Gaza, on fait rien. 3 occidentaux égorgés, on envoie l'armée. » Que voulez-vous répondre à ce genre de choses? C'est vrai, c'est vrai. C'est ce double standard qui est une espèce de d'abcès pulvérulent dans la communauté musulmane. Encore une fois, comment peut-on accepter qu'on construise un mur de 6 mètres de haut qui divise la Cisjordanie pour la rendre ingouvernable?
Oui, alors Pierre Conessa, vous dites aussi que certains de ces jeunes partent pour des motifs humanitaires, bien que le mot soit dans leur esprit un peu vague. Mais vous dites aussi que là, il y a des conflits, et ça on sait de quoi nous parlons sur RFI, ou en Afrique, qui sont aussi meurtriers, qui ont fait des millions de morts sans que personne ne s'en émeuve.
Oui, on est dans un nouveau type, si vous voulez, d'interventionnisme. Quand on était dans l'Est-Ouest, on ne pouvait négliger aucun des régions de la planète, parce que si on ne s'en occupait pas, c'était l'autre partie qui s'en occupait. Bon. Avec la disparition de RSS, si vous voulez, est apparu un monde utile, un monde inutile. C'est-à-dire que se décide aujourd'hui, dans les grandes chancelleries, la crise sur laquelle il est important d'intervenir, et les motivations, souvent, n'ont pas grand-chose à voir avec des intérêts stratégiques. Par exemple, la crise la plus meurtrière depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est la crise du Congo. 2,5 millions de morts, 13 000 enfants enlevés dont pour faire des enfants soldats, des esclaves sexuels, etc. Mais vous voyez bien que ça n'a jamais fait la première page des journaux. Donc, si on intervient en Syrie, c'est parce qu'il y a tout un arrière-fond, un background idéologique qui fait qu'on se justifie en expliquant que nous avons des responsabilités historiques. Mais si on fait le bilan de nos responsabilités historiques dans la région, il faudrait vite s'en retirer. Parce que si on commence avec Sykes-Picot, rappelez-vous, je cite l'exemple aussi de la première révolution irakienne dans laquelle Churchill avait justifié qu'on utilise les surplus de gaz de la guerre de 14. Donc, on est dans ces situations où la mémoire des autres, il faut la prendre en compte pour éventuellement avoir un minimum de distance critique vis-à-vis de ce qu'on fait. Donc, cette région est malheureusement pleine de cicatrices laissées par les Occidentaux. Pensez à l'embargo mis sur l'Irak. Peut-être 150 000 enfants qui sont morts de maladies aussi bénignes que la grippe ou la rougeole. Comment peut-on accepter ce genre de choses ?
Une semaine d'actualité.
Et nous partons pour le continent africain maintenant, Pierre Conessa, et nous allons reparler de la rupture entre l'Arabie Saoudite et l'Iran et de ses conséquences en Afrique. Léonard Vincent.
C'est une guerre des chefs que se livrent l'Arabie Saoudite et l'Iran, un jeu pour la suprématie, en Afrique comme ailleurs. Et c'est un jeu qui ne date pas d'hier, même si la guerre par procuration que se livrent les deux puissances au Yémen depuis 2014 envenime cette rivalité. C'est en tout cas dans ce contexte que la fermeture des ambassades iraniennes au Soudan, à Djibouti ou en Somalie doivent se comprendre. Alliés idéologiques et fournisseurs d'armes du Soudan depuis longtemps, les Iraniens s'étaient efforcés ces dernières années de gagner de nouvelles amitiés africaines. Un pays paria comme l'Érythrée voyait une opportunité de rompre son isolement international. La Somalie, longtemps hostile, espérait une aide dans sa reconstruction et Djibouti un soutien de ses ambitions économiques. Mais de l'avis d'un analyste, le retour en grâce de l'Iran auprès des États-Unis l'année dernière a changé la donne. Désormais, l'Arabie Saoudite, déjà affaiblie par la chute du prix du pétrole, ne pouvait plus tolérer la montée en puissance politique de son rival sur le continent noir. C'est pourquoi elle a décidé de frapper fort et, pour reprendre la main dans sa guerre froide contre l'Iran, de demander à ses alliés africains, une fois pour toutes, de choisir leur camp.
Partons pour la Libye maintenant avec une offensive de l'organisation de l'État islamique dans la zone pétrolière du pays et la prise d'une ville du bassin de Sirte. David Thompson a fait un point lundi.
Dans sa propagande ces derniers mois, l'État islamique avait promis de s'emparer de la manne pétrolière en Libye. Hier matin, l'organisation est donc passée à l'action. Par surprise, plusieurs dizaines de ses pick-up lourdement armés partis de son fief de Sirte ont d'abord attaqué Benjawad, verrou stratégique vers le croissant pétrolier libyen. En fin de matinée, les djihadistes revendiquaient sur Internet le contrôle total de cette ville côtière située à 30 km de Nawfilia, ville tenue par l'EI, et 130 km à l'est de Sirte. Mais selon des sources locales, des combats s'y déroulaient encore hier soir. Au même moment, plusieurs attaques kamikazes étaient lancées contre les terminaux pétroliers de Ras Lanouf et d'Al-Sedra pour ouvrir la voie aux djihadistes. Un assaut meurtrier mais sans succès pour l'EI pour le moment. Dans l'après-midi, les djihadistes ont été repoussés par des forces locales qui s'attendent à de nouveaux assauts. Avant-guerre, ces terminaux pétroliers à l'arrêt depuis plus d'un an exportaient près de 80% du brut libyen et sont aujourd'hui sous la garde d'une milice locale autonomiste revendiquant près d'un millier de combattants.
Notez aussi qu'un attentat au camion piégé a fait plus de 40 victimes à Zliten, à 160 km environ à l'est de Tripoli. À souligner aussi dans l'actualité africaine le résultat du premier tour de l'élection présidentielle en Centrafrique. Il reste désormais deux candidats, Anissé Georges Dologuele et Faustin Archange.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
C'était notre adresse électronique que vous connaissez sans doute par cœur. Continuez à nous écrire. Merci pour vos messages. Merci pour vos vœux. À mon tour de vous souhaiter une nouvelle fois une bonne année. Bonjour à Fiacre en Centrafrique qui se dit satisfait de la maturité et du sens patriotique de ses compatriotes. Fin de citation. Bonjour à Taïrou, à Mopti. Tous mes vœux à Aboukari au Tchad. Ainsi qu'à Armand à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville, bien sûr. Et à Christian qui est professeur à l'Université du Québec à Montréal.
7 jours en Afrique.
Suite d'une semaine d'actualité en votre compagnie, Pierre Conessa, le sujet sur la Libye vous a intéressé. C'est une destination que les futurs djihadistes, hélas, vont peut-être.
Oui, c'est effectivement une succursale que Daesh a l'intention de récupérer et donc se mettre beaucoup plus à proximité de notre pays. Et l'autre aspect qui m'intéresse beaucoup, bon, la Libye, malheureusement, vous voyez la situation. L'instabilité est telle que même BHL n'y va plus. Je vais vous dire si la situation est dramatique.
Et on est dans cette logique.
On est dans cette situation où, comme en Afghanistan, quand on démolit un pays, même s'il était sous régime dictatorial, mais qu'il n'a pas cette unité nationale, on a une guerre qu'un chef de guerre afghan avait parfaitement définie. Il disait, on ne peut pas acheter un chef de guerre afghan, mais on peut le louer. Et ça, c'est la logique des guerres tribales. C'est-à-dire, on peut changer d'alliance en cours de route, parce que de toute façon, la seule logique, c'est comment est-ce que je garde la maîtrise de ma propre ethnie, de ma propre tribu, etc. Donc, on a détruit l'État libyen avec ce dictateur horrible qui était Kadhafi. Oui, effectivement. Et encore une fois, sans aucune perspective politique. Or, c'est ce qu'on a failli faire au début avec la Syrie, puisqu'on avait dit, l'ennemi, c'est Assad, il peut pas être là autour de la table, etc., etc. Donc, on pense ce qu'on veut d'Assad, on pense ce qu'on veut de Kadhafi, mais la situation dont on hérite au bout du compte risque d'être beaucoup plus grave, puisqu'effectivement, dans les zones sans État, enfin, dans ces États faillis, si vous voulez, fleurissent évidemment tous les mouvements djihadistes qu'on peut connaître, puisque à ce moment-là, c'est la loi de l'arme, c'est la loi du... Et les stocks existent, les stocks d'armes existent en Syrie, existent en Libye, etc., donc tout était à proximité. Donc il faudrait réfléchir avant d'agir.
C'est une sage devise qu'il faut méditer. Pierre connaît ça. Je voudrais qu'on revienne à l'Arabie Saoudite. Claude Angéli, dans le Canard Enchaîné, signe sa chronique consacrée à la politique étrangère sur les relations entre la France et l'Arabie Saoudite. La France piégée par ses fous de Saoudiens. C'est l'étude de son article cette semaine. Vous vous dites dans votre guide, aux djihadistes, encore une fois c'est de l'humour, j'insiste lourdement, à quoi sert de combattre l'État islamique si l'on défend l'Arabie Saoudite?
Oui, c'est une très bonne question. Bon, il y a une
c'est
différence.
Vous qui l'a posé.
Oui, non, mais il y a une différence essentielle, c'est que l'Arabie Saoudite a beaucoup d'argent.
Ouais.
Donc un peu de respect pour l'argent. Vous savez bien qu'on est dans une société dans laquelle quand même l'argent est devenu quasiment une religion. Donc vous savez, il vaut mieux être un criminel en col blanc dans nos sociétés qu'un djihadiste. Ça, c'est quand même beaucoup moins réprimé. Et donc on est dans cette situation où ça suscite le respect parce que l'Arabie Saoudite, il y a toujours 10 milliards de contrats annoncés en signature. Quand vous aviez eu, je ne sais lequel, si c'était le Premier ministre ou le Président qui est allé là-bas, on était dans cette même situation où il y avait des exécutions en cours de route, mais on expliquait quand même qu'il y avait 10 milliards de dollars en instance de signature.
Bon.
Comme c'est une espèce de prévision glissante, ça veut dire qu'il faut toujours respecter l'Arabie Saoudite. Donc on a pris cette habitude de donner des leçons de droits de l'homme à tout le monde, à la surface de la planète, sauf l'Arabie Saoudite, qui probablement est un État qui respecte les droits de l'homme. Enfin, les droits de la femme, on ne sait pas trop, mais pour les droits de l'homme, il paraît que ça les respecte.
Une semaine d'actualité.
Alors dans ce guide, vous avez un chapitre qui est consacré aux conditions hôtelières sur place. Bon, là encore, on s'amuse beaucoup en vous lisant, mais c'est tellement dur qu'on ne sait pas s'il faut rire ou pleurer. Et sur aussi les vêtements, les tenues vestimentaires, parce qu'il y a une sorte de code vestimentaire chez les djihadistes.
Absolument, absolument.
Ça, je l'ai appris, je ne savais pas.
Justement, faites attention, ne portez pas dans n'importe quelle condition. Il y a des modes, effectivement. Vous avez des sites qui vous disent ce qu'on peut porter avec le camis, ce qu'il ne faut pas porter. Bon, alors, c'est un côté satirique, hein, parce que ce sont des sites tunisiens. Mais c'est vrai que les Anglais, par exemple, se sont beaucoup servis de l'humour pour lancer une mode de djihadiste. Encore une fois, dans le même état d'esprit que ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire dégonfler cette mythologie du héros négatif. Et c'est vrai que les médias, les salafistes djihadistes ont réussi à parfaitement retourner l'utilisation des médias à leur avantage. On fait des films qui ressemblent étrangement aux films hollywoodiens, on fait des scénarios qui ressemblent à des jeux de guerre, etc. Et donc ça, il y a une espèce de continuum intellectuel dans cette espèce de valorisation de la violence, qui peut expliquer qu'un jeune qui après tout se dit mais j'ai joué aux jeux de guerre, mais enfin je m'épuise parce que c'est un peu toujours la même chose. Par contre, je peux aller enfin pratiquer en Syrie. Il ne reste plus qu'à trouver la justification idéologique, et la justification idéologique, c'est d'expliquer...
Le vernis religieux,
c'est-à-dire d'aller défendre les musulmans. Hier, j'étais à une conférence que fait Tarek Oubrou, le recteur de la mosquée de Bordeaux, qui disait il y a une espèce de continuum entre une espèce de délinquance sociale qui va aller dans une délinquance religieuse. C'est-à-dire que tout à coup, on renverse le système de valeurs parce que, en ayant pris le mot l'islam en quitte, exactement comme le font les salafistes, on devient tout à coup un héros qui va renverser l'ordre des valeurs. Tout à coup, on vous craint. Tout à coup, vous êtes un héros négatif. Tout à coup, vous êtes quelque chose qui existe. Et ça, dans notre société, dans laquelle la violence, notamment cinématographique, est absolument incroyable. Je citais souvent cet exemple à mes élèves de Sciences Po. Dans Rambo 2, Stallone, qui n'a pas fait la guerre du Vietnam, je tiens à le dire, tue 72 personnes. 72, bon. Et puis, évidemment, il va là-bas en expliquant que cette fois, il y va pour gagner. C'est l'argument classique de l'extrême droite. C'est la faute des bureaucrates et des politiciens si on a perdu. Mais essayez d'imaginer une minute qu'on fasse un film comme ça sur l'Algérie. Un ancien combattant de la France en Algérie qui retournerait en Algérie, qui tuerait 72 Algériens. Ça ferait un scandale. Mais la façon dont c'est fait aux États-Unis donne toujours le sentiment, et vous avez le même démarche avec American Sniper, qui est un film odieux, qui est un film de propagande. Vous avez le même film sur Juba, qui est le sniper irakien, justement un salafiste qui tue des soldats américains. Ça n'a évidemment pas la même qualité cinématographique, puisque c'est pas Clint Eastwood qui l'a fait, mais je veux dire, les deux sont des films de propagande. Et si on ne prend pas cette distance critique, on a le discours qui est délivré au premier degré cette fois-ci par Clint Eastwood, c'est là nous allons là-bas pour défendre la liberté. Il y retourne 4 fois d'ailleurs. Et on s'aperçoit quand il rentre aux États-Unis, il s'embête.
Guide du petit djihadiste, mais aussi, on pourrait dire, guide de la petite djihadiste, parce qu'il y a des femmes aussi. Ça, c'est encore plus difficile à comprendre, Pierre Canessa.
C'est vrai. Ça reste un espèce de mystère dans lequel il faut probablement laisser travailler les chercheurs. Enfin, il y a des études en cours, sur le sujet. Oui. Mais cette espèce de renversement de valeur, probablement d'ailleurs au fait que, qui tient d'ailleurs au fait que la libération de la femme, enfin, en tout cas, l'égalité homme-femme a été retournée dans une espèce de sexualité marchande de la femme, qui est absolument odieuse. Il y avait un musulman qui me disait, mais une femme à poil sur une publicité, ça ne choque pas. Une femme avec un voile, ça choque. Et c'est vrai qu'il faut le constater comme ça. C'est-à-dire qu'on utilise le corps de la femme pour vendre n'importe quoi, depuis le yaourt jusqu'à la voiture, en passant par des emprunts obligataires. Et donc, on est sur quelque chose qui peut paraître odieux à des femmes, et qui, d'un seul coup, se disent, mais dans une société où il y aurait un homme qui enfin me respecterait, qui aurait le courage de ses opinions, et qui est prêt à risquer sa vie dans une guerre, tout à coup, c'est un modèle de l'homme. Alors que la façon dont notre société traite les femmes peut susciter des révoltes. Finalement, c'est pas ce que la génération de ma femme a voulu de cette libération et de cette égalité homme-femme.
Oui, c'est vraiment très troublant de voir que des jeunes filles, aujourd'hui, elles sont pas nombreuses, on ne connaît pas d'ailleurs exactement leur nom, veuillent partir.
Il y a effectivement un exemple que je cite dans le livre, qui est une jeune fille qui justement réussit à se désembrigader, si vous voulez, à la dernière minute. Oui. Mais la façon dont elle explique le processus, c'est assez intéressant, puisqu'un jour sur son profil Facebook, elle explique que comme toute adolescente, elle a fait des bêtises, qu'elle aimerait bien se faire pardonner, qu'elle aimerait bien trouver une trajectoire de vie valorisante. Immédiatement, dès qu'elle est repérée, il y a toute une espèce de chasse en meute qui vient autour d'elle, c'est-à-dire des gens qui disent « Oui, nous aussi, on a eu le même problème, et nous, on comprend très bien ce que tu as, etc. Mais nous, on a trouvé la solution. » Et puis, progressivement, si vous voulez, selon sa propre personnalité, on va lui dire « Il faut que tu partes faire de l'humanitaire, ou alors il faut que tu ailles effectivement te marier, etc. » Et donc, cette chasse en meute va ensuite aboutir à l'espèce de séparation entre la fille et sa famille. Tu es entouré par des gens qui ne comprennent rien, et ta famille, de toute façon, sont des mécréants, ils sont de mauvais musulmans, peu importe. Et puis ensuite, là, il faut convaincre qu'il faut participer à la lutte. Alors, pour une femme, ça peut être de partir en Syrie, de se marier, etc., et d'avoir là-bas des enfants. Et puis, pour un garçon, ça peut être d'aller combattre.
Pierre connaît ça. Votre livre s'intitule « Guide du petit djihadiste à l'usage des adolescents, des parents, des enseignants et des gouvernants ». Il est publié chez Fayard sous un aspect second degré, avec plein d'humour. Il y a des choses extrêmement graves et sérieuses qui sont dites. C'était le but de ce livre. Merci d'être venu commenter l'actualité. Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovansky. Je vous retrouve demain pour le magazine Idée. Cette fois, un an après les attentats de janvier, nous serons en compagnie du philosophe Pierre Manan, qui vient d'écrire un essai fort remarqué sur la place des musulmans en France aujourd'hui. Il préconise des compromis pour leur meilleure intégration. Pour en savoir plus, rendez-vous demain dimanche, donc à 16h10, temps universel, 17h10, heure de Paris. On termine en revenant sur une autre disparition de Pierre Boulez, cette fois, qui nous a quittés mercredi. Pierre Boulez, maître de la musique contemporaine, on le sait, fondateur de l'IRCAM, l'Institut de Recherche et Coordination Acoustique Musique à Paris. Écoutez-le au micro de Jacques Chancel sur France Inter, donc, en 1977. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur RFI.
Au fond, ce n'est que ça qui m'a intéressé toujours, c'est de exprimer ce que je ressens comme ma propre vérité. Je l'ai exprimé donc par la composition. Je l'ai exprimé aussi dans les activités de chef d'orchestre où j'ai tenu à imposer la musique contemporaine comme une partie du fait musical de tous les jours. Et ça s'est élargi de l'autre façon parce que je me suis aperçu qu'on n'arriverait pas à imposer simplement une génération si on ne faisait pas l'effort de mettre un pont avant cela. Vous savez, il faut que le public fasse exactement le même trajet que celui que le compositeur a fait.